Oui, avant de commencer, j'aimerais ça qu'on prie tout de suite. Moi, j'aimerais remercier le Seigneur d'avoir incliné le cœur déjà des autorités plus rapidement que prévu pour qu'on puisse avoir des rencontres intérieures et extérieures plus nombreuses. On va juste remercier le Seigneur tout de suite, puis on va prier en même temps pour le message. Bien oui, Seigneur Dieu, on a un grand Dieu, on a un Dieu tout-puissant, un Dieu qui est même au contrôle de nos gouvernements. Merci d'avoir incliné le cœur de M. Ford pour qu'on puisse recommencer les rencontres en Église. Merci aussi cette semaine d'avoir permis qu'on entre dans la phase 3 et qu'on puisse avoir des rassemblements plus nombreux, qu'on puisse avoir justement ce camping dans 3 semaines. Certainement, Seigneur, on veut te demander qu'il n'y ait pas de mesures qui se resserrent, Seigneur, dans les prochains jours, que ça puisse avoir lieu. Et Seigneur, que ça puisse être une occasion pour nous comme Église de se réjouir, de se retrouver ensemble, de rire ensemble, Seigneur, et surtout de se réjouir en toi, Seigneur Dieu. Alors, c'est en Jésus-Christ qu'on va te prier. Je veux te remettre ce temps entre tes mains. Dirige cette étude de ta parole, Seigneur, qu'on puisse ensemble scruter tes Écritures et que ça puisse transformer nos vies. C'est ma prière ce matin. C'est en Jésus que je te le demande. Amen. On peut y aller, Gilles, parce que tu l'avais déjà parti. Donc, cette semaine, je me suis dit que ça serait peut-être le fun d'aller dans un thème des Évangiles. C'est pour ça que j'ai choisi le texte de Jean, chapitre 3, versets 22 à 36. On va les lire tout à l'heure. Mais non, les amis, je ne vous ai pas oublié, on a quelques images encore cette semaine hein, pour rire un petit peu ensemble. Et je trouvais ça intéressant, justement, qu'on ait Marie-Ange et la petite avec nous ce matin, parce que la prochaine, justement, va nous parler. Hein, on a beau grandir, on a beau avoir peut-être 40, 50 ans, mais notre maman va toujours nous voir comme ça. Hein? La deuxième, je la trouvais intéressante, hein, ce petit garçon qui dit, « Madame, il dit, c'est ton bébé qui est dans ton ventre. » La madame a dit, « Ben oui, mon petit. » Il dit, « Tu l'aimes, ton bébé? » Elle dit, « Bien oui, mon petit, je l'aime beaucoup, mon bébé. » Elle dit, « Bien, pourquoi tu l'as bouffé de bord? » C'est très comique un petit peu. Le troisième, elle dit, « Mon papa se vante de pouvoir lever 50 kilos. » Elle dit, « À moi tout seul, la nuit, je lève toute la famille. » Et ma dernière, hein? Ça, c'est évidemment dans un autre contexte, hein, où il y a certaines églises où ils baptisent des bébés. Il dit, ce matin, à l'église, un vieil homme en robe a essayé de me noyer. Je te le dis, et ma famille restait là à prendre des photos. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas toute la compréhension hein, à cet âge-là. Mais voici maintenant notre histoire de la semaine, juste pour nous mettre en contexte avec notre sujet. C'était une fois au cœur d'un ancien royaume en Asie, il y a plusieurs années. Il y avait un homme qui avait un très beau jardin, un grand jardin. Et pendant la journée, il aimait ça aller se promener justement dans son jardin. Il y avait une partie qui était boisée, qui avait de la forêt. Il aimait ça aller se promener à l'ombre et contempler un petit peu sa propriété finalement. Mais il y avait une plante qui était particulièrement chère à ses yeux, c'était un bambou magnifique, qui était droit, complètement droit, il était haut, il avait près de 30 mètres de haut, et il faisait vraiment sa fierté. Lorsque le vent soufflait, hein, le bambou pouvait danser, on aurait dit que c'est lui qui menait l'orchestre pour faire danser tout le jardin, finalement, de cet homme, et il prenait vraiment un grand plaisir et une grande fierté. Avec cet arbre. Mais un beau jour, alors qu'il y avait une grande sécheresse qui sévissait dans le pays, dans le royaume, notre homme est encore comme à l'habitude, venu se promener. Il y avait un air très sérieux ce matin-là, même très mystérieux, très solennel. Et il est arrivé près du bambou et lui a dit, bambou, il dit, j'aimerais ça. Il dit, j'ai besoin de t'utiliser aujourd'hui. Alors, bambou, très fier, hein? Il dit, ah, mais bien sûr, utilisez-moi. Il dit, là, son heure de gloire était venue. enfin pour le pourquoi il avait été cultivé toutes ces années-là. Donc, il était bien prêt. Il dit, d'accord, maître. Il dit, allez-y, utilisez-moi. Et le maître, d'un air encore plus sérieux, dit, oui, mais bambou, pour ce faire, je vais devoir te couper et te jeter à terre. Le bambou. Ben, voyons, maître, ça se peut pas. Vous pouvez pas faire ça. Voyons donc, me couper, me jeter dans la poussière, moi, une telle beauté que je suis, vous ne pouvez quand même pas faire ça. Alors le maître dit, oui, mais bambou, si je te coupe pas, je ne te mets pas à terre, je ne pourrai pas t'utiliser. Alors bambou, bien déçu, dit, d'accord, maître, si vous devez me couper, me mettre par terre pour m'utiliser, allez-y, faites-le. Mais le maître ajoute, oui, mais bambou, c'est que je vais devoir aussi couper tes branches, et enlever tes feuilles. Bambou, ben là, exagérez pas quand même. Maître, déjà que vous me jetez à terre dans la poussière, là, vous voulez en plus, voyons, enlevez-moi pas en plus les branches et les feuilles. Donc le maître, il dit, bambou, si j'enlève pas tes branches et tes feuilles, je ne pourrai pas t'utiliser. Alors bambou se résigne encore. Il dit, d'accord, maître, de base, si vous n'avez pas le choix, allez-y, coupez aussi mes branches et mes feuilles. Le maître continue encore d'une voix encore solennelle. Oui, mais tu sais, je vais devoir aussi te fendre en deux puis vider ton cœur pour pouvoir t'utiliser. Là, on voyait vraiment la déception de bambou. Il dit, d'accord, maître, si vous n'avez pas le choix, si vous n'avez pas le choix de m'enlever le cœur, de me couper en deux, allez-y. Alors, le maître l'a fait. Le maître a coupé le bambou, l'a jeté à terre, enlevé ses branches, ses feuilles, l'a coupé en deux, a évidé son cœur, et là, doucement, il a ramassé les morceaux de bambou. Il les a apportés à une source d'eau qui était tout près de ses champs. A déposé le premier bout dans la source d'eau, et l'autre extrémité a amené ça jusqu'à une coulée d'eau qui se rendait jusqu'à ses champs. Et là, la source a chanté, hein, s'est mise à chanter, l'eau s'est mise à ruisseler, et les champs se sont mis à être abreuvés. Alors, le maître du jardin a semé du riz, et le temps passé, les semaines, hein, les mois passés, et il a récolté. Il a récolté une belle récolte de riz. Donc, vous voyez dans cette histoire, tant que bambou était debout, hein, tout dans sa gloire, dans sa majesté, dans sa grandeur, eh bien, il était un bel être vivant, n'est-ce pas? Mais lorsqu'il a été humilié, lorsqu'il a été coupé en deux, il a été vidé même de son cœur, à ce moment-là seulement, il a pu être une source de vie pour les autres. Son maître a pu faire de lui un canal pour mener la vie. Alors, c'est dans ce contexte que l'on est rendu à la troisième diapositive. Donc, alors la quatrième maintenant. Lisons notre texte dans Jean, chapitre 3. Tournez là avec moi, au verset 22. Disons ça ensemble. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée. Et là, il demeurait avec eux et il baptisait. Jean aussi baptisait à Édon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau, et on y venait pour être baptisé, car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent, « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain, à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. » Jean répondit, « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux, qui se tient là et qui l'attend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils, et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc, on dirait quasiment le gong qui sonne dans le jardin asiatique. Donc, le premier point, ne perdons jamais de vue notre mission. Alors, les disciples de Jean, dans les versets 22-26, viennent lui rapporter que Jésus est en train de gagner en popularité à leur détriment, finalement. Mais est-ce que c'était une compétition? Est-ce qu'il y avait une compétition entre les disciples de Jean et les disciples de Jésus? Il est dit qu'il baptisait et tous allaient à lui. Par contre, dans un petit peu plus loin, dans deux versets plus loin, Jean prend la peine de mentionner que Jésus ne baptisait pas lui-même, mais que c'était ses disciples qui baptisaient. Et je pense que cette petite notification est importante, parce que qu'est-ce qui serait arrivé? Qu'est-ce qui serait arrivé si quelqu'un avait été baptisé par Jésus? On connaît le cœur humain, on sait comment le cœur humain est orgueilleux, et comment les gens auraient pu s'enorgueillir. Moi, j'ai été baptisé par Jésus, pas par n'importe qui. Alors, je pense que c'est pour ça que Dieu a permis que ce ne soit pas Jésus qui baptise, mais plutôt ses disciples. C'est ce qu'on voit d'ailleurs, lorsque Paul, un petit peu plus tard, dans Corinthiens, il dit, est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Je rends grâce à Dieu de ce que j'ai baptisé aucun d'entre vous. Parce que les gens s'enorgueillissaient, parce qu'eux avaient été baptisés par Paul. Alors, je pense que c'est la raison pour laquelle ce n'est pas Jésus, mais c'était ses disciples qui baptisaient ici. Mais les disciples de Jésus baptisaient plus de gens que ceux, plus de personnes que ceux de Jean, les disciples de Jean. Pourtant, le témoignage de Jean avait été on ne peut plus clair. Il avait pour mission de préparer le chemin pour Jésus. Il n'avait pas caché ça à ses disciples, et même au verset 28 de notre texte, il prend ses disciples à témoin. Il dit, vous êtes témoins vous autres même que j'ai dit que je ne suis pas le Christ, mais que j'ai été envoyé au-devant de lui. Et ça, il le publiait même ouvertement lorsqu'on lui posait la question. Mais on dirait que les disciples de Jean ont perdu de vue cette mission-là que Jean leur a partagée. Jean n'était nullement en compétition avec Jésus. Il était à son service, en fait, pour préparer son chemin. Donc, la popularité de Jésus ne venait en rien faire ombrage à la mission de Jean. Deuxièmement, réjouissons-nous de la progression de l'Évangile et de la popularité de Jésus-Christ, finalement. Quand nous nous rappelons bien de notre mission, de notre rôle, eh bien, on accepte avec joie qu'on ne soit pas mis nous-mêmes sur la sellette, qu'on ne soit pas mis en vedette, finalement. Ce n'est pas un concours de popularité. Nous n'avons besoin de rien pour nous-mêmes. Pourvu que Christ lui-même soit exalté, pourvu que lui soit au centre de nos vies, lui soit au centre de l'Église, c'est ça qui est notre mission, c'est ça qui est notre but. Et c'est exactement ce que Jean fait ici. Il rappelle que sa mission, et par le fait même la mission de ses disciples, puisqu'ils le suivent, hein, c'est justement que Jésus monte, Jésus croisse hein, en popularité. Et ça, le texte nous dit que sa joie est parfaite, sans aucun regret, sans aucune tristesse. C'est de la joie 100% pure lorsqu'il entend parler que la popularité de Jésus-Christ augmente. Et ici, prend l'exemple de l'ami de l'époux. Okay? Donc, imaginez-vous que vous avez un ami qui se marie. Votre meilleur ami se marie aujourd'hui. Et là, vous voulez tout faire pour que l'attention des gens se tourne vers les mariés, pas vers vous, là. Bon, c'est sûr que même des fois, on trouve ça triste quand des gens font ça, mais même dans un mariage, on va se tenter d'amener l'attention sur eux. Mais ce qu'on veut, c'est que toute l'attention soit sur les mariés. Et quelle joie lorsqu'on est en présence de ce couple, hein, qu'on voit la joie dans leurs yeux pétiller. On dit, waouh, on est tellement content de pouvoir être là. Hein, notre joie est à son summum pour eux. Et s'il y a quelque chose qu'on peut faire, s'il y a quelque chose qu'on peut faire pour rendre cette journée encore plus extraordinaire, on va certainement le faire, on ne va pas se gêner pour aider nos époux à passer la plus belle journée, pour agrémenter ce moment-là. Donc, voici le sentiment de Jean à l'endroit de Jésus, même dans cette situation où lui, sa popularité commençait à baisser, puis celle de Jésus à monter. Troisièmement, acceptons de diminuer au profit de Jésus. Il y a une expression ici dans notre texte qui ajoute un petit peu à notre verset, c'est le « il faut ». Il faut qu'il croisse et que je diminue. Donc, c'est l'ordre normal des choses. Il ne pourrait pas en être autrement. Il faut que ce soit ainsi. C'est la destinée de Jean et c'est aussi son objectif. Les amis, j'ai une question piège pour vous peut-être Lydia et Caleb vont pouvoir peut-être me répondre. Hein? Est-ce qu'il y a des étoiles dans le ciel pendant le jour? Hein, les amis, est-ce qu'il y a des étoiles dans le ciel pendant le jour? Caleb dit que non. Lydia, tu penses qu'il y a des étoiles dans le ciel? Non, toi non plus. Les adultes, est-ce qu'il y a des étoiles dans le ciel pendant le jour? Oui. Pourquoi qu'on ne les voit pas? C'est ça. La lumière du soleil est tellement forte, tellement intense, qu'on ne voit plus les étoiles briller. Mais elles sont là, les étoiles. Les étoiles sont quand même là, mais la lumière du soleil est tellement resplendissante que ces petites étoiles-là sont négligeables et on ne les voit plus. On ne les voit plus à côté de la lumière du soleil qui est si intense. Eh bien, Jean avait bien compris ça par rapport à Jésus. Puisqu'il était venu préparer le chemin du Seigneur, plus Christ grandissait, plus Christ gagnait en popularité, plus lui diminuait. Et était un petit peu comme ces étoiles qu'on voit de moins en moins au fur et à mesure que le soleil se lève. Parce que sa lumière terrestre devenait négligeable à côté de la lumière de Christ. Lui avait un message qui était bien terrestre. Et Christ avait un message vraiment céleste qui était illimité. Donc, le succès finalement, aussi quand on regarde la mission de Jean, le succès de Jésus était en partie grâce à la mission de Jean, qui avait bien accompli, puisque sa mission était de faire croître Jésus en popularité. Donc, plus que Jésus croissait en popularité, meilleur travail il avait fait finalement. Imaginez-vous, juste pour prendre une autre illustration de ça, vous avez sûrement déjà vu ça, là, les stars, hein? Avant et après le maquillage. C'est quand même impressionnant, là. Hein? quand on regarde ces images-là, là, je pense que n'importe quelle dame pourrait se comparer à ces stars-là ici. Pourtant, quand on les voit sur l'écran, c'est « wow, elles sont tellement belles ». Imaginez-vous que vous êtes une maquilleuse pour une star. Okay? Votre rôle, c'est de prendre une star comme ça, puis la rendre comme celle-là. Okay? Ça, c'est votre rôle. C'est tout que des artistes, hein, les maquilleuses, là, font des chefs-d'œuvre souvent avec pas grand-chose. Mais imaginez que vous êtes la maquilleuse d'une star, et que là, quelqu'un vient vous voir, puis il vous dit, « Hey, là, cette star-là était tellement merveilleuse, elle était radieuse dans tel rôle qu'elle a joué. Là. Moi, j'ai vraiment aimé cette actrice-là, elle est tellement jolie. » Puis là, vous savez que c'est vous qui avez maquillé cet artiste-là, qui en avez fait ce chef-d'œuvre-là, finalement. Puis là, maintenant, ils ont même plus que les maquilleuses, ils ont même les touch-ups sur les pellicules, même, qui peuvent corriger les défauts. Donc, c'est rendu vraiment... Mais imaginez-vous, est-ce que vous seriez jalouse si on vous disait que cette star-là est magnifique? C'est vous qui l'avez maquillée. Bien sûr que non. Mais vous allez prendre un petit peu de cette fierté-là et dire, ben c'est moi, finalement, qui l'a amené là, qui l'a rendu aussi jolie que ça. Donc, quand la personne vous fait un compliment sur cette actrice-là, bien, elle est en train de vous faire un compliment, pas nécessairement dans son rôle, mais dans sa beauté, dans son physique, bien, elle est en train de vous complimenter, vous. Parce que c'est parce que vous avez fait un bon travail si elle est aussi radieuse. Eh bien, Jean, de la même façon, pouvait être flatté de la popularité grandissante de Jésus. Son petit cousin, son grand petit cousin, on pourrait dire même. Hein? C'est donc en partie parce que Jean a bien aplani son chemin que Jésus a pu gagner en popularité. Évidemment, on sait que c'est Dieu qui a utilisé Jean pour ça, mais c'était le rôle de Jean, c'était sa mission. Et plus Jésus gagnait en popularité, meilleur travail lui avait fait, comme cette histoire de maquilleuse. Mais pour vivre cette réalité, ça prend beaucoup d'humilité, une bonne dose d'humilité, mais aussi de mort à soi. Il faut accepter de rester souvent dans l'ombre du Seigneur. Et ça se reflète dans tous nos ministères. Peu importe quel est ton ministère, qu'est-ce que Dieu t'a appelé à faire, de mourir à soi, d'humilité, de faire passer Christ avant, ça passe dans tous ces ministères-là. Je vais juste en prendre deux exemples. Exemple, tu fais de la formation de disciples. Tu es en train de former quelqu'un à devenir un disciple. Tu le formes pour qu'il puisse devenir dépendant de Jésus-Christ et non pas dépendant de toi. Parce que des fois, quand les gens le font mal, c'est ce qui arrive. Le disciple devient dépendant de celui qui l'a enseigné plus que de Jésus-Christ. Mais si tu veux vraiment bien faire ton travail, tu amènes cette personne-là à dépendre de Jésus-Christ uniquement. Donc, tu amènes toujours vers, si elle te pose une question, tu vas l'aider à scruter les Écritures, à regarder la réponse d'elle-même, de prier, de demander à Dieu de lui montrer. Donc, si tu ne veux pas que ça tourne vers, les regards se tournent vers toi, mais les regards de ton disciple se tournent vers Jésus. Si tu es en train de présider ou de jouer de la musique en avant, ce que tu veux, ce n'est pas que les gens t'applaudissent à la fin de ta prestation, mais ton objectif, c'est que Dieu soit adoré, que Dieu soit exalté. Donc, si vous voulez encourager un président ou un musicien, venez juste lui dire que cette semaine, vous avez vraiment adoré Dieu, que vous êtes vraiment entré dans la présence de Dieu dans le temps de célébration. Je pense que c'est la meilleure façon que vous pouvez l'encourager, bien plus que de l'applaudir. D'ailleurs, c'est pour ça que, personnellement, je pense que si on venait à l'église regarder un spectacle, qu'on aurait une personne qui viendrait faire une prestation, finalement chanter des cantiques et qu'on l'écouterait tout simplement et qu'on applaudirait à la fin, je pense qu'on passerait tout simplement à côté de l'objectif de la rencontre. Ce qu'on veut, c'est que les gens adorent Dieu, que les gens rendent un culte à Dieu et non pas aller écouter un spectacle et applaudir à la fin. On passerait tout simplement à côté de la raison d'être de l'Église, finalement, là. Donc, en passant, c'est une belle musique pour les mamans. Là, si jamais on entend vos bébés, moi, j'ai aucun problème. C'est une belle musique d'ambiance. Merci, Gilles, d'avoir mis cette trame sonore-là. Okay. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Donc, c'est exactement ce qui était illustré aussi dans Apocalypse 4, 10, lorsqu'on voit les 24 vieillards. Vous vous rappelez de cet épisode-là, où les 24 vieillards prennent leur couronne et la jettent au pied du trône. Ils sont en train de dire, finalement, « C'est aucune gloire pour moi. Toute la gloire revient à Dieu. » C'est exactement ça qu'ils sont en train d'illustrer. Ils acceptent qu'il n'y ait pas de récompense, finalement, pour eux. Parce que c'est Dieu qui mérite toute cette gloire-là, toute cette récompense-là, finalement. Donc, un exemple de ça, on sait que Pierre, dans les prochains mois, va être bien occupé à construire une belle maison, mais vous allez visiter la belle maison que Pierre, le chef-d'œuvre que Pierre est en train de construire, et là, vous dites, « Wow! Quelle bonne scie! Être une bonne scie, toi, pour avoir fait une belle maison de main, tu dois avoir un marteau extraordinaire, là. Je peux-tu voir tes outils? J'aimerais ça voir ces outils-là. Est-ce que c'est à cause de la scie, à cause du marteau, que Pierre va avoir fait une belle maison? Non, c'est l'artiste chef, c'est Pierre. La scie, le marteau sont juste des outils. Eh bien, dans le royaume de Dieu, c'est la même chose. On est juste des outils. Toute la gloire revient au maître d'œuvre, à Dieu lui-même. Donc, c'est la même chose. Donc, tu acceptes finalement que Dieu croit, c'est que toi, tu diminues, que toi, tu passes dans l'ombre. Quatrièmement, le salut de nos contemporains en dépend. Jean réitère comment son message est moindre par rapport à celui de Jésus. Il n'est que terrestre et bien limité, celui de Jésus est céleste et illimité, comme on l'a dit tout à l'heure. Pourtant, les gens ne reçoivent pas ce témoignage-là. Alors, ce que Jean peut faire, il le fait, en rendant témoignage de qui est Jésus. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, vous vous rappelez, lors du baptême. Donc, le ministère de Jean servait à préparer les cœurs, finalement, pour qu'ils puissent venir à Jésus-Christ, pour qu'ils puissent croire en lui pour être sauvés, pour avoir la vie éternelle. C'est ce que le verset 36 nous révèle. C'était ça son objectif. C'est comme ça que Jean pouvait préparer le chemin du Seigneur. Jean n'était pas en train de bâtir sa propre Église. Il était en train de mettre les choses en place pour que Jésus-Christ bâtisse son Église. Revenons maintenant à notre histoire du début. Histoire du bambou. Tant que notre bambou restait debout, hein, il servait qu'à alimenter sa propre gloire et peut-être un petit peu la gloire de son maître. Mais quand il a été coupé, quand il a été vidé, il a été placé au bon endroit, alors seulement il a commencé à apporter la vie, alors seulement il a été vraiment utile à son maître. Voilà la position de Jean, mais aussi la nôtre. À chacun d'entre nous. Maintenant, j'aimerais vous demander, frères et sœurs, est-ce que vous croyez que Dieu a une mission particulière pour chacun d'entre vous? Dieu demande une mission spéciale à chacun d'entre vous. Le croyez-vous? Si je vous demande quelle est cette mission, souvent c'est là que, oups, là on ne sait plus trop quoi répondre. Évidemment, nous, on n'a pas eu une apparition d'un ange, comme le père de Jean, Zacharie, qui expliquait sa mission. Mais on en a chacun une mission que Dieu nous a confiée. Donc, ce matin, sache-le, mais crois-le aussi, que Dieu t'a équipé, a équipé chacun d'entre nous d'une façon spéciale, toute particulière lors de notre conversion, mais aussi à travers de notre parcours de vie. Dieu nous a préparés, Dieu nous a équipés. Dieu a aussi préparé pour toi une mission spéciale au sein de son Église dans l'Est de l'Ontario. Puis, probablement même plusieurs missions qu'il a préparées pour toi dans son Église. Si tu ne mènes pas à bien cette mission, eh bien, toute l'Église, dans son ensemble, va en souffrir. Parce que Dieu t'a confié une responsabilité. Si tu restes assis et tu la fais pas cette responsabilité-là, eh bien, toute l'Église va souffrir de ce manque-là que Dieu avait pourvu quand même à l'Église. Il est probable qu'aussi, à travers de cette mission, à travers de ce ministère, ce rôle que tu vas avoir à jouer, tu vas rester dans l'ombre. Tu ne vas peut-être pas être reconnu, être applaudi, peut-être même pas être apprécié pour ce que tu vas faire. Mais ce que tu vas faire va contribuer à rapprocher les gens de Jésus-Christ, à exalter le nom du Seigneur, à prendre soin de son peuple, peut-être à prêcher, à propager la bonne nouvelle pour que le Maître, lui, grandisse. Donc, tu dois, à l'origine, accepter que même en servant Dieu au sein de ton Église, tu n'auras peut-être pas la reconnaissance, mais que Christ, tu veux que ce soit lui qui ait la reconnaissance. Tu veux que Christ croisse et que toi, tu diminues. Ça, on est tous invités, peu importe notre rôle, à bien jouer ce rôle-là et accepter de rendre toute la gloire à Dieu, de rester en coulisses, en sourdine, d'accepter que notre petite lumière ne paraisse plus finalement dans le beau ciel que, rempli de la lumière du Seigneur. À nous, on est négligeable à côté de ça. Mais on veut jouer notre rôle parce que notre rôle est important pour que le Seigneur resplendisse de plus en plus intensément. Accepter de ne pas reculer aussi quand on se frappe peut-être à une... On n'est pas apprécié, on n'est pas reconnu, qu'on a dû rester en sourdine, pourvu que Christ croise dans le cœur des gens. Es-tu prêt à cela? On va prier. Bien oui, Seigneur, ce qu'on veut, c'est que toi, tu croises. On accepte de diminuer, Seigneur, de diminuer même aux yeux des frères et sœurs, diminuer même aux yeux de notre société, pourvu que toi, ton nom soit exalté, que tu sois ton Église, Seigneur, puisse se répandre encore davantage, que tu puisses étendre ton royaume, Seigneur, ici-bas. Ma prière, c'est que aucun, Seigneur, ne reste dans le placard, qu'aucun d'entre nous ne laisse ses dons, Seigneur, sur la tablette, mais qu'il puisse les mettre à ton service. En acceptant, Seigneur, que toi tu croisses et que nous on diminue. Seigneur, qu'on puisse être des serviteurs utiles dans ton royaume. Papa du ciel, toute la gloire pour toi. Aucune gloire pour nous, mais toute la gloire pour toi. C'est ma prière pour chacun d'entre nous ce matin. C'est en Jésus qu'on veut te prier. Amen. Donc, bonne semaine, je vais inviter...